Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Élection 2023 en RDC. Moïse Katumbi s'est dit prêt à apporter sa contribution à la prise en charge des avions pour la tenue des élections le 20 décembre. Il réagit ainsi à la sollicitation du gouvernement par la CENI d'un appui logistique pour le déploiement du matériel et du personnel de la CENI à travers le pays. Nord Kivu, des combats se sont poursuivis hier soir entre le M23 et les FARDC sur les montagnes surplombant la localité de Chacha. Des balles perdues ont fait 3 morts et au moins 2 blessés, indiquent des sources sur place. Situation qui a provoqué un nouveau mouvement des populations dans la zone. Et puis, il faut un suivi psychopathologique à la communauté congolaise en ce moment du processus électoral en RDC. Tenez, plus de 20 000 candidats députés, l'échec qui devra affecter plus de 19 000 entraînera forcément des répercussions psychologiques. C'est ce que pense le professeur Dr Alissa Job de l'Université des Martyrs du Congo. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Sollicitation du gouvernement par la CENI pour un appui logistique, notamment en avion, en tonneau et en hélicoptère. Le directeur de la communication de la centrale électorale précise que ce ne serait pas une première, puisque c'est le gouvernement de la République qui finance les élections. Ainsi, la commission électorale avait sollicité et obtenu du gouvernement des appuis aussi bien en 2018 qu'en 2011. Quant à ceux qui doutent encore de la tenue des élections, il les confirme pour le 22 de ce mois. Jean-Baptiste Itipo l'a dit à Babel Mpongo Masimango.
Si cela serait vrai, ce n'est pas étonnant. En 2011, la commission électorale de l'époque avait sollicité du gouvernement des appuis logistiques et le gouvernement à son tour a contacté l'Angola et l'Angola avait mis à la disposition de la CENI 5 hélicoptères. En 2018, devant le siège de la CENI, tout le monde a vu des colonnes de véhicules militaires appelés Kamaz. Il y avait aussi des Boeing de l'armée et des hélicoptères que le gouvernement avait mis à la disposition de la CENI pour renforcer sa logistique. Et l'enrôlement au nord Rubangi à Badulite n'a été rendu possible que grâce notamment au Boeing que le gouvernement avait mis à la disposition de la CENI, que nous avons surnommé Tolérance Zéro. Le gros du matériel a été déjà déployé. Ces avions aussi, tel est le cas, ont été sollicités, pourront servir au déplacement du personnel et de quelques petits matériels convoyés par le personnel opérationnel qui sera envoyé sur le terrain. Le 20 décembre, nous irons aux urnes voter.
Concernant justement cette demande de la CENI au gouvernement pour un appui logistique en avion, en tonneau et hélicoptère, le candidat Moïse Katumbi a affirmé sur son compte X que pour aider son pays, il est prêt à apporter sa contribution à la prise en charge des avions en vue de la tenue des élections le 20 décembre en cours. Et dans le cadre de la campagne électorale, Moïse Katumbi était dans l'ex-Bandundu, Constant Mutamba à Bukavu, tandis que Pasteur Ngalassi était à Massimanimba dans le Kwilu. Félix Antoine Tshisekedi de son côté a tenu son meeting à Bukavu au sud Kivu pendant que Tony Cassius Bolamba est arrivé hier à Kisangani dans la Tshopo. Pendant ce temps, dans la province du Sankuru, toutes les activités étaient paralysées hier dans la ville de Lusambo où il y avait une tension vive. Plusieurs habitants de cette ville ont pris d'assaut les grandes artères pour manifester, selon le maire de la ville, contre l'annulation de l'arrivée à Lusambo du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Annulation annoncée par son équipe de campagne. Cette campagne électorale du candidat numéro 20 était prévue pour le 11 décembre prochain à Lusambo. Elle aura plutôt lieu à Lodja. D'après certaines sources, le bureau de l'UDPS Lusambo a été saccagé. Plusieurs coups de feu ont été tirés après le déploiement des éléments de la police. Et dans la suite de la diffusion des interviews des candidats à la présidentielle du 20 décembre, Radio Okapi reçoit aujourd'hui Floribert Anzuluni Bembe. Le candidat numéro 5 précise que sa candidature est une candidature collective. C'est la conclusion d'un engagement collectif des membres issus de la société civile et de l'engagement citoyen. Il dit briguer la magistrature suprême parce qu'il constate que le système de gouvernance de la RDC n'a pas changé. On écoute Floribert Anzuluni Bembe au micro de Jocelyne Moussaou Pondé et Guy Matetsongo.
Nous nous sommes rendus compte, pour certains, confirmés pour d'autres, que le problème n'était pas simplement celui de remplacer un individu, que nous avions affaire finalement à un système, que nous on appelle un système de gouvernance prédateur, qui est à la base en fait de l'état actuel du pays. C'est un groupe de personnes, un petit groupe de personnes, qui se retrouvent principalement dans l'espace politique, qui sont dans tous les camps politiques, mais qui sont majoritaires, qui ont pris le pays en otage, qui se sont accaparés les ressources du pays pour leurs propres intérêts, au détriment de l'intérêt de la majorité des Congolais. Raison pour laquelle nous avons décidé alors de mettre en place un véhicule que nous on appelle un véhicule alternatif, pour lancer un processus qui va permettre de faire émerger des acteurs, de renouveler la classe politique, mais de manière qualitative, avec des personnes qui, selon nous, devraient ou ont un peu plus d'amour pour le pays, un peu plus de valeur, un peu plus d'amour pour le Congolais, un peu plus d'expertise et surtout des personnes qui ont une vision pour le Congo.
L'intégralité de cette interview est à suivre à 8h30, 15h30 et 20h heure de Kinshasa et à tout moment sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Parlons de l'affichage des listes d'électeurs par la CENI dans ses antennes. Cela est effectif à Kinshasa depuis le 5 de ce mois. À l'antenne de Lukunga et dans celle de Ngaliema, où Radio Okapi s'est rendue, des feuilles duplicateurs sont collées sur des supports en triplex. La questeur adjointe de la commission électorale, Sylvie Birimbano, est elle-même allée se rendre compte à l'antenne de la Lukunga, située dans l'enceinte de la maison communale de Lingwala. Toutefois, certaines personnes que nous avons rencontrées n'y retrouvaient pas leur nom sur ces listes. Reportage de Babel Mpongo Massimango, Greta Lulendo et Marie-France Mungindu.
Au niveau des deux antennes, les listes sont affichées. Des feuilles duplicateurs avec photos et noms des électeurs sont collées sur des supports en triplex. Ainsi, elles peuvent être facilement ramenées à l'intérieur en cas de pluie. Nous avons eu à réimprimer une partie parce qu'abîmée par les intempéries, nous a appris la responsable de l'antenne de Ngaliema. Mais très peu sont en train de consulter ces listes. Les personnes présentes sont plus préoccupées par l'obtention de leur duplicata des cartes électeurs. Du coup, on n'y prête pas trop attention. À l'antenne de Lukunga, par contre, quelques personnes parcouraient des listes du regard et du doigt pour voir leur nom. Mais tout n'ayant pas été affiché, celles que nous avons rencontrées ne se retrouvaient pas.
J'ai vu comme s'il n'y a pas mon nom sur la liste. C'est pourquoi je vais encore repasser là-bas pour vérifier.
Il n'y a pas mon nom dans la liste. Je suis un peu inquiet.
À Lukunga, la questeur adjointe de la CENI en visite précise ceci.
Une visite de supervision habituelle. Nous passons voir la délivrance et du duplicata et voir si les électeurs sont en train de consulter la fiche. Nous nous rendons compte qu'il y a des électeurs qui sont venus les consulter et ça nous fait plaisir. Ceux qui ne retrouvent pas leur nom ont le temps de passer encore à l'antenne pour réclamer et l'antenne les prend en charge.
Ceux dont les noms ne se retrouvent pas sur ces listes devraient s'adresser aux préposés de leur antenne qui disposent de toutes les données. Vu l'espace, nous ne pouvons pas tout afficher, nous a-t-on appris à Ngaliema.
Et puis, identifier des alternatives technologiques et politiques spécifiques pour minimiser l'impact des interruptions d'Internet durant la période électorale, c'est l'un des points débattus lors du dialogue intergénérationnel sur les coupures d'Internet en RDC, dialogue tenu jeudi à Kinshasa, organisé par le chapitre de l'Internet Society en RDC. En collaboration avec ses partenaires, cette activité vise à élaborer des solutions innovantes pour éviter toute coupure d'Internet pendant cette période électorale. Au lieu de couper Internet comme lors des élections précédentes, Kevin Mukendi, secrétaire général de Internet Society, chapitre congolais, appelle le gouvernement à plutôt prendre des dispositions pour réguler Internet pendant cette période pour éviter des messages de haine. On l'écoute dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Nous, étant avocats des utilisateurs de l'Internet, nous voulons anticiper cette coupure et sensibiliser non seulement l'État, mais aussi la société civile, les entreprises et toute autre personne à ne pas couper Internet parce que Internet est un droit fondamental pour tous les citoyens du monde entier. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu des élections et ensuite il y a eu des contestations du camp du président sortant Donald Trump. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, des fake news, mais l'État n'a pas coupé Internet. Mais plutôt, ils ont trouvé les moyens de faire en sorte que les plateformes comme Facebook, comme l'ex-Twitter qui est maintenant X, ils ont trouvé un moyen de réguler ça. Donc nous pouvons aussi faire la même chose, mettre en place une genre de police numérique qui va suivre tout ce qui se passe sur Internet. Parce que couper Internet engendre des coûts. Pendant les dialogues, on a vu par exemple que lorsqu'on coupe l'Internet pendant 6 jours ici au Congo, ça va faire perdre à l'économie nationale 20 millions de dollars. Et 20 millions de dollars représentent 20 km de route asphaltée ici en RDC.
Par ailleurs, à quelques jours des élections, plusieurs électeurs ne sont toujours pas encore en possession de leurs duplicata avec lesquels ils vont voter, déplorent certains candidats. C'est le cas notamment dans la province du Maniema, Madame Tabouna Sorjane, candidate à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Kasongo. Elle demande à la CENI de tenir sa promesse faite aux candidats de déployer ses équipes dans les localités éloignées de la CENI pour la délivrance des duplicata. Elle plaide aussi pour la protection des femmes candidates qui, selon elle, sont victimes de toutes sortes de violences en cette période. Tabouna Sorjane explique au micro de Florence Kizalunga.
Premièrement, en se rapprochant de mes électeurs, nous rendons compte que les électeurs sont butés devant une très grande difficulté liée aux cartes d'électeurs. La fois dernière, nous étions dans une réunion organisée par le secrétaire exécutif provincial de la CENI, là où il a épinglé la question sur l'accessibilité de la population pour avoir les duplicata. Il nous a promis que dans peu de jours, on va disponibiliser dans les secteurs chefferie, les agents de la CENI qui vont aider à livrer les duplicata pour essayer un peu de diminuer les coûts de la population en rapport avec les déplacements. C'est pourquoi nous lançons un SOS à la CENI de tenir à sa promesse. Ma deuxième préoccupation, en pleine campagne, nous étions victimes de violences de tout genre. En tout cas, nous lançons un message fort aux organisations du système des Nations Unies, aux organisations des droits de l'homme et autres organisations féminines de nous assister pour que nous puissions battre nos campagnes dans de bonnes conditions comme le font nos partenaires.
Direction le Nord Kivu. Des combats opposant les rebelles M23 aux forces armées de la RDC se sont poursuivis hier vendredi dans la soirée sur les montagnes surplombant la localité de Chacha. Nous sommes au sud du territoire de Masisi, sur la route nationale numéro 2, Goma-Bukavu. Selon des sources sur place, autour de 15h locales, des balles perdues sont tombées sur le village, faisant 3 morts et au moins 2 blessés parmi les civils, indiquent des sources locales. Cette situation a créé une panique, provoquant un nouveau mouvement des population dans la zone. Rappelons qu'après l'occupation de Mushaki jeudi, puis Karuba hier vendredi, les rebelles du M23 avanceraient à présent vers la route Goma-Minova d'après des sources sur place. Dans l'actualité aussi, les inondations font rage dans plusieurs localités du Grand Équateur. Cela dure depuis environ 2 semaines. C'est notamment dans les territoires de Bomongo, province de l'Équateur, et de Bujala, dans le sud d'Ubangi. Les routes sont coupées, les écoles fermées, les cultures et les habitations sont détruites. Les sinistrés lancent un cri d'alarme. Paul Richard Malengela nous en parle.
À la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la région du Grand Équateur, les eaux du fleuve et de plusieurs cours d'eau ont quitté leur lit. Dans plusieurs localités, les habitants font face aux inondations. Le cas à Bomongo Centre et des localités périphériques dans les territoires qui portent le même nom. Depuis une semaine, indiquent des témoins, les quartiers Boputa et Bokotola sont sous les eaux. Conséquence, les murs empuisés de l'épée Bobenda, épée Liboso, épée Misele et de l'Institut Mambonga 2 se sont écroulés. Les habitants dans les maisons restent inondés, sont allés s'abriter dans des bâtiments scolaires actuellement libres à cause de la grève des enseignants. Par ailleurs, la circulation devient périlleuse le long de la route Bujala-Akula dans le sud d'Ubangi. Elle est coupée sur plusieurs tronçons par les inondations. Jean-Robert Lambo, porte-parole de la jeunesse de Bujala, qui revient d'un voyage à Akula, indique qu'il a dû recourir à des piroguiers pour transporter sa moto et continuer le voyage. Sur place à Akula, il a trouvé des écoles dont les élèves suivent le cours les pieds dans l'eau. Partout, les sinistrés lancent un appel aux autorités du pays afin de leur apporter une assistance urgente. Bandaka, Porsche Malengela, Radio Okapi.
Santé. Au sud Kivu, une maladie d'origine inconnue décime les animaux domestiques dans le territoire d'Idjui. Depuis quelques jours, près de 150 chèvres sont mortes de cette épidémie en l'espace d'un mois dans environ 15 localités. Le service vétérinaire appelle au secours pour le vaccin afin de freiner la propagation de cette maladie. Le point avec Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
C'est d'abord la société civile du territoire d'Idjoui qui tire la sonnette d'alarme au sujet de cette maladie qui tue les chèvres. Madame Dorcelle Bagagazé, présidente de la société civile.
Dans le territoire d'Idjoui, une maladie similaire à la peste de ruminant ravage les chèvres. Ces chèvres sont attaquées par une forte diarrhée qui les rend très faibles au point de ne plus brouter avant que certaines ne meurent. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide avant que cette maladie ne contamine la population d'Idjoui.
Près de 150 chèvres sont déjà mortes dans l'espace de un mois à Idjoui. L'inspecteur chef du service de l'élevage à Idjoui parle de la peste des petits ruminants. Emmanuel Barouvana Boulambo cite également la fièvre afteuse.
Les chèvres sont en train de souffrir de la peste des petits ruminants. Et même la fièvre afteuse aussi est en train de menacer le bétail. Nous avons déjà réalisé plus de 147 bêtes déjà décimées. La maladie continue toujours à se propager. C'est une maladie qui se transmet de l'animal vers l'humain, de l'humain vers l'animal. Maintenant,
signalons que l'élevage des chèvres constitue la principale activité économique de la population du territoire insulaire d'Idjoui. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale. Les pluies diluviennes qui touchent l'Afrique de l'Est depuis octobre et ont fait plus de 300 morts ont été jusqu'à deux fois plus intenses à cause du changement climatique causé par l'activité humaine. C'est ce qui ressort d'une étude scientifique publiée jeudi. Les intempéries qui ont touché l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie entre octobre et décembre ont été l'une des plus intenses jamais enregistrées dans la région, selon un réseau mondial des scientifiques qui analyse en temps réel les événements météorologiques extrêmes.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur Dr Alissa Diop de l'Université des Martyrs du Congo. Il propose un suivi psychopathologique à la communauté congolaise en ce moment du processus électoral en RDC. Un service, dit-il, offert par l'Institut National de Recherche et d'Intervention en Psychopathologie Clinique et en Consultation Stratégique Électorale, ouvert cette année au sein de son institution. Pour lui, en effet, plus de 20 000 candidats sont en lice pour les législatives nationales. L'échec qui devra affecter plus de 19 000 entraînera forcément des répercussions psychologiques. Le professeur Alissa Diop s'entretient à ce sujet avec Bernardin Nyangui.
Professeur Alissa Diop, bonjour.
Bonjour.
À l'Université des Martyrs du Congo, vous avez un institut national de recherche d'intervention à psychopathologie. Est-ce que cet institut a commencé à fonctionner déjà cette année académique?
Effectivement, c'est déjà fonctionnel, puisque avec les particularités de l'Université des Martyrs du Congo, il faudrait vraiment un centre d'écoute en psychologie, puisqu'il faut détraumatiser, écouter ces enfants qui ont vécu les affres de guerre. C'est à ce sens-là que notre Institut national de recherche et d'intervention en psychopathologie clinique et en consultation stratégique électorale en Afrique fonctionne au sein de l'université. Ce qu'il faudra signaler, que c'est le premier institut national de recherche en psychopathologie qui existe, mais aussi celle qui détient les tests des personnalités qui mesurent les comportements criminels. Mais aussi, cet institut prépare non seulement les militaires avant, pendant, même après la guerre. Puisqu'un militaire qui va au front, à la guerre, doit être préparé à la guerre. Les militaires qui viennent du front doivent être préparés comment vivre dans la société. Et vous comprendrez qu'avec nos psychologues qui sont permanents, on essaye à tester, à savoir les chaque critère, les comportements de tous ces militaires blessés et ceux qui ne sont pas blessés. C'est comme ça que quelqu'un, il dort avec ses enfants, avec la famille, avec sa femme, et par la rêve, il tire sur sa femme. C'est un esprit de traumatisme. Alors, il faut vraiment, avec cet Institut national de recherche et d'intervention en psychopathologie clinique, on arrive à aider, à accompagner, à étudier les comportements de chacun pour les intégrer et de traumatiser tous ces problèmes liés à la psychologie. Au-delà de ça, dans ces mêmes centres-là, il y a la consultation stratégique électorale.
Exactement, c'est ce que je voulais poser comme question. Puisqu'on dit Institut national de recherche d'intervention en psychopathologie clinique et en consultation stratégique électorale en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans la période électorale. À quoi est-ce que cela pourrait apporter un apport?
Chers journalistes, je suis encore heureux de communiquer aux gens que ce n'est pas par la photo qu'on peut voter quelqu'un. Ce n'est pas par la musique sur la route qu'on peut voter quelqu'un. Mais il y a des stratèges former comment réussir les élections. Alors, avec notre Institut national de recherche et d'intervention en psychopathologie clinique et consultation stratégique électorale en Afrique centrale, nous sommes capables d'apprendre les gens comment réussir aux élections, comment gagner les élections.
Comment?
Je ne peux pas donner ces stratégies puisqu'on doit nous consulter. On doit nous consulter pour la réussite aux élections. Ceux qui veulent réussir les élections doivent nous consulter. Mais au-delà de cela, comme je parle toujours de psychopathologie, il y a l'aspect psychologique qui arrive. On a plus de 20 000 candidats députés nationaux. Alors que sur ces 20 000, il y a 500 postes dont la République a besoin. Donc, il y a 15 000 qui s'attendent à l'échec. Et certains ont vendu les maisons, certains ont vendu leurs biens. Et après la proclamation, certains vont tomber malades par les AVC s'ils ne sont pas préparés psychologiquement. C'est avec nous, c'est avec cet Institut national de recherche en psychopathologie clinique, en consultation stratégique électorale, qu'on doit montrer les gens après échec comment se comporter, même après réussite comment se comporter, au lieu de tomber dans des maladies liées à des problèmes purement psychologiques, puisqu'on n'a pas été bien préparé.
Donc c'est un appel que vous faites à tous les candidats de vous consulter.
Effectivement, j'ai fait appel à tous ces candidats députés, même candidats présidents, qu'il y a un Institut national de recherche et d'intervention en psychopathologie clinique et en consultation stratégique électorale en Afrique centrale qui fonctionne à l'Université des Martyrs du Congo. Puisque l'Université des Martyrs du Congo, c'est avec des orientations. C'est vouloir le bien-être de la personne, de la société. Quelqu'un qui a perdu de l'espoir, comment lui faire de l'espoir? Les élections, comme je l'ai dit, de manière stratégique, on peut échouer, mais on doit savoir que c'est un cycle qui se répète. Alors, ils doivent venir savoir comment réussir. Même si j'échoue aujourd'hui, cette fois-ci, je dois consulter l'Institut national qui est à la disposition pour montrer comment préparer quelqu'un et à la réussite et à l'échec.
Professeur Alissa Diop, merci.
Notre invité répondait aux questions de Bernardin Nyangui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.